Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir. Nous revoici donc pour Lectures en liberté et la suite de L'écume des jours de Boris Vian. L'administration donnait beaucoup d'argent à Colin, mais c'était trop tard. Il devait maintenant monter chez des gens tous les jours. On lui remettait une liste et il annonçait les malheurs un jour avant qu'ils n'arrivent. Tous les jours, il se rendait dans les quartiers populeux ou bien dans les beaux quartiers. Il montait des tas de marches, il était très mal reçu. On lui lançait à la tête des objets lourds et blessants et des mots durs et pointus. Et on le mettait à la porte. Il touchait de l'argent pour cela et donnait satisfaction. Il conserverait ce travail. La seule chose qu'il pouvait faire, c'était cela, se faire mettre à la porte. La fatigue le tenaillait, lui soudait les genoux, lui creusait la figure. Ses yeux ne voyaient plus que les laideurs des gens. Sans cesse, il annonçait les malheurs à venir. Sans cesse, on le chassait avec des coups, des cris, des larmes, des injures. Il monta les deux marches et suivit le couloir et frappa, reculant d'un pas sitôt après. Quand les gens voyaient sa casquette noire, ils savaient et le maltraitaient, mais Colin ne devait rien dire, on le payait pour ce travail. La porte s'ouvrit. Il prévint. Et partit. Un lourd morceau de bois l'atteignit dans le dos. Il chercha sur la liste le nom suivant et vit que c'était le sien. Alors, il jeta sa casquette et il marcha dans la rue et son cœur était de plomb car il savait que le lendemain, Chloé serait morte. Le religieux parlait avec le chouiche et Colin attendait la fin de leur conversation, puis il s'approcha. Il ne voyait plus la terre sous ses pas et chaque fois il trébuchait. Ses yeux regardaient Chloé sur leur lit de noces mat, avec ses cheveux sombres et son nez droit, son front un peu bombé, sa figure à l'ovale arrondi et doux, et ses paupières fermées qu'il avait rejetées du monde. « Vous venez pour l'enterrement ?» dit le religieux. « Chloé est morte ?» dit Colin. Il entendit Colin dire « Chloé est morte » et ne le crut pas. « Je sais, » dit le religieux, « quel prix voulez-vous y mettre ? Vous désirez sans doute une belle cérémonie. »« Oui, » dit Colin. « Je peux vous faire quelque chose de très bien dans les 2000 doublezons, » dit le religieux. « J'ai aussi plus cher. » « Je n'ai que 20 doublezons, » dit Colin. Je pourrais peut-être en avoir 30 ou 40 de plus, mais pas tout de suite. Le religieux remplit ses poumons d'air et souffla d'un air dégoûté. « Ah, c'est une cérémonie de pauvre alors qu'il vous faut !»« Je suis pauvre, » dit Colin. « Et Chloé est morte. »« Oui, » dit le religieux, « mais on devrait toujours s'arranger pour mourir avec de quoi se faire enterrer décemment. Alors, vous n'avez même pas 500 doublezons. » « Non, » dit Colin. « Je pourrais arriver jusqu'à 100 si vous acceptez d'être payé en plusieurs fois. »« Est-ce que vous vous rendez compte de ce que c'est de se dire « Chloé est morte »?»«
Oh, vous savez, » dit le religieux, « j'ai l'habitude, alors ça ne me fait plus d'effet. »« Je devrais vous conseiller de vous adresser à Dieu, mais j'ai peur que pour une si faible somme, ce ne soit contre-indiqué de le déranger. »
« Oh, » dit Colin, « je ne vais pas le déranger. Je ne crois pas qu'il puisse grand-chose, voyez-vous, parce que Chloé est morte. »
Changer de sujet, dit le religieux, penser à, je ne sais pas, moi, n'importe quoi, par exemple.
Est-ce que pour 100 doublezons, j'aurai une cérémonie décente ? Dit Colin.
Oh, je ne veux même pas envisager cette solution, dit le religieux. Vous irez bien jusqu'à 150.
Je mettrai du temps à vous payer.
Vous avez un travail. Vous me signerez un petit papier.
Si vous voulez, dit Colin.
Dans ces conditions, dit le religieux, peut-être irez-vous jusqu'à 200 et vous auriez le bedon et le chuiche de votre côté, tandis qu'à 150, ils sont dans le parti opposé.
Je ne crois pas, dit Colin. Je crois que je n'aurai pas longtemps ce travail.
Alors nous disons 150, conclut le religieux, c'est regrettable. Ce sera une cérémonie véritablement infecte. Vous me dégoûtez, vous lésinez trop.
Je m'excuse, dit Colin.
Allez, venez signer les papiers, dit le religieux, et il le poussa brutalement.
Colin se heurta à une chaise. Le religieux, furieux de ce bruit, le poussa de nouveau vers la sacristoche et le suivit en grommelant. Les deux porteurs trouvèrent Colin qui les attendait dans l'entrée de l'appartement. Ils étaient couverts de saleté car l'escalier se dégradait de plus en plus, mais ils avaient leurs plus vieux habits et n'en étaient pas à une déchirure près. On voyait par les trous de leurs uniformes les poils rouges de leurs vilaines jambes noueuses et ils saluèrent Colin en lui tapant sur le ventre comme prévu au règlement des enterrements pauvres. L'entrée ressemblait maintenant à un couloir de cave. Ils baissèrent la tête pour arriver à la chambre de Chloé. Ceux du cercueil étaient partis, on ne voyait plus Chloé, mais une vieille boîte noire marquée d'un numéro d'ordre et toute bosselée. Ils la saisirent et s'en servant comme d'un bélier, ils la précipitèrent par la fenêtre. On ne descendait les morts à bras qu'à partir de 500 doublezons. C'est pour cela, pensa Colin, que la boîte a tant de bosses. Et il pleura, parce que Chloé devait être meurtrie et abîmée. Il songea qu'elle ne sentait plus rien et pleura plus fort. La boîte fit un fracas sur les pavés et brisa la jambe d'un enfant qui jouait à côté. On le repoussa contre le trottoir et ils la hissèrent sur la voiture à mort. C'était un vieux camion peint en rouge et un des deux porteurs conduisait. Très peu de gens suivaient le camion. Nicolas, Isis et Colin, et deux ou trois qu'ils ne connaissaient pas. Le camion allait assez vite, ils durent courir pour le suivre. Le conducteur chantait à tue-tête. Il ne se taisait qu'à partir de 250 doublezons. Devant l'église, on s'arrêta, et la boîte noire resta là pendant qu'ils entraient pour la cérémonie. Le religieux, l'air renfrogné, leur tournait le dos et commençait à s'agiter sans conviction. Colin restait debout devant l'autel. Il leva les yeux. Devant lui, accroché à la paroi, il y avait Jésus sur sa croix. Il avait l'air de s'ennuyer et Colin lui demanda « Pourquoi est-ce que Chloé est morte ?»
Bon, je n'ai aucune responsabilité là-dedans, dit Jésus, si nous parlions d'autre chose.
Qui est-ce que cela regarde ? Demanda Colin. Ils s'entretenaient à voix très basse, et les hôtes n'entendaient pas leur conversation.
Ce n'est pas nous, en tout cas, dit Jésus.
Je vous avais invité à mon mariage, dit Colin.
Oh, c'était réussi, dit Jésus, je me suis bien amusé.
Pourquoi n'avez-vous pas donné plus d'argent cette fois-ci ?
Je n'en ai plus, dit Colin. Et puis, ce n'est plus mon mariage cette fois.
Oui, dit Jésus. Il paraissait gêné. C'est très différent, dit Colin. Cette fois, Chloé est morte. Je n'aime pas l'idée de cette boîte noire.
Dit Jésus.
Il regardait ailleurs et semblait s'ennuyer. Le religieux tournait une crécelle en hurlant des vers latins. « Pourquoi l'avez-vous fait mourir ?» demanda Colin.
« Oh, dit Jésus, mais n'insistez pas !»
Il chercha une position plus commode sur ses clous.
« Elle était si douce, dit Colin.
Jamais elle n'a fait le mal ni en pensée ni en action.
Mais ça n'a aucun rapport avec la religion, marmonna Jésus en bâillant.
Il secoua un peu la tête pour changer l'inclinaison de sa couronne d'épines.
Je ne vois pas ce que nous avons fait, dit Colin. Nous ne méritions pas cela.
Il baissa les yeux. Jésus ne répondit pas. Colin releva la tête. La poitrine de Jésus se soulevait doucement et régulièrement. Ses traits respiraient le calme. Ses yeux s'étaient fermés et Colin entendit sortir de ses narines un léger ronronnement de satisfaction comme un chat repu. À ce moment, le religieux sautait d'un pied sur l'autre et soufflait dans un tube et la cérémonie était finie. Le religieux quitta le premier l'église et retourna dans la sacristoche, maître de gros souliers à clous. Colin, Isis et Nicolas sortirent et attendirent derrière le camion. Alors le chouiche et le bedon apparurent, richement vêtus de couleurs claires, et ils se mirent à huer Colin et dansèrent comme des sauvages autour du camion. Colin se boucha les oreilles, mais il ne pouvait rien dire. Il avait signé l'enterrement des pauvres et il ne bougea même pas en recevant les poignées de cailloux.
D'une feuille morte, deux escargots s'en vont. Ils ont la coquille noire, du crêpe autour des cornes. Ils s'en vont dans le soir, un très beau soir d'automne. Et lassement, ils arrivent, c'est déjà le printemps. Ressuscité, et les deux escargots sont très désappointés. Mais voilà le soleil qui leur dit: prenez, prenez la peine de vous asseoir. Prenez un verre de bière si le cœur vous en dit. Prenez, si ça vous plaît, l'autocar pour Paris. Il partira ce soir, vous verrez du pays.
Mais ne prenez pas le deuil, c'est moi qui vous le dis.
Ça noircit le blanc de l'œil, et puis ça, on l'est dit. Les histoires de cercueil, c'est triste et pas joli. Reprenez vos couleurs, les couleurs de la vie. Alors toutes les bêtes, les arbres et les plantes se mettent à chanter à tue-tête, la vraie chanson vivante, la chanson de l'été. Et tout le monde de boire, tout le monde de trinquer. C'est un très joli soir, un joli soir d'été. S'en retournent chez eux, ils s'en vont très émus, ils s'en vont très heureux, comme ils ont beaucoup bu, ils titubent un petit peu, mais là-haut.
Après cette nouvelle pause musicale, nous reprenons L'écume des jours de Boris Vian pour les derniers chapitres.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Ils marchèrent pendant très longtemps dans les rues. Les gens ne se retournaient plus et le jour baissait. Le cimetière des pauvres était loin. Le camion rouge roulait et sautait sur les inégalités du chemin pendant que le moteur lâchait de joyeuses pétarades. Colin n'entendait plus rien. Il vivait en arrière et souriait quelquefois, il se rappelait tout. Nicolas et Isis marchaient derrière lui. Isis touchait de temps en temps l'épaule de Colin. La route s'arrêta et le camion aussi, c'était l'eau. Les porteurs descendirent la boîte noire. Colin venait au cimetière pour la première fois. Il était situé dans une île en forme indécise, dont les contours changeaient souvent avec le poids de l'eau. On la distinguait vaguement à travers les brouillards. Le camion resta sur le bord. On accédait à l'île par une longue planche souple et grise dont l'extrémité lointaine disparaissait dans la brume. Les porteurs lâchèrent de gros jurons et le premier s'engagea sur la planche. Elle était juste assez large pour qu'on y passe. Il tenait la boîte noire avec de larges courroies de cuir brut qu'il leur passait sur les épaules en faisant un tour autour du cou et le second porteur commençait à suffoquer, il devenait tout violet. Sur le gris du brouillard, cela faisait très triste. Colin suivit. Nicolas et Isis se mirent à leur tour en marche le long de la planche. Le premier porteur piétinait exprès pour la secouer et la balancer de droite et de gauche. Il disparut au milieu d'une vapeur qui s'effilochait comme des filets de sucre dans l'eau d'un sirop. Leurs pas résonnaient sur la planche en gamme descendante et peu à peu elle s'incurva. Ils s'approchaient du centre. Lorsqu'ils y passèrent, elle toucha l'eau et des vaguelettes symétriques clapotèrent des deux côtés. L'eau la recouvrait presque. Elle était sombre et transparente. Colin se pencha à droite. Il regarda vers le fond. Il croyait voir une chose blanche remuer vaguement dans la profondeur. Nicolas et Isis s'arrêtèrent derrière lui. Ils étaient comme debout sur l'eau. Les porteurs continuaient. La seconde moitié du chemin montait et quand ils eurent dépassé le milieu, les petites vagues diminuèrent et la planche se décolla de l'eau avec un bruit de succion. Les porteurs se mirent à courir. Ils tapaient des pieds et les poignées de la boîte noire sonnaient contre les parois. Ils arrivèrent à l'île avant Colin et ses amis et s'engagèrent pesamment dans le petit sentier bas dont deux haies de plantes sombres formaient les côtés. Le sentier décrivait des sinuosités bizarres aux formes désolées, et le sol était poreux et friable. Il s'élargit un peu. Les feuilles des plantes tournaient au gris léger, et les nervures ressortaient en or sur leur chair veloutée. Les arbres, longs et flexibles, retombaient en arc d'un bord à l'autre du chemin. À travers la voûte ainsi formée, le jour produisait un halo blanc, sans éclat. Le sentier se divisa en plusieurs branches et les porteurs prirent à droite sans hésitation. Colin, Isis et Nicolas se hâtaient pour les rattraper. On n'entendait pas d'animaux dans les arbres. Seules des feuilles grises se détachaient parfois pour tomber lourdement sur le sol. Ils suivirent les ramifications du chemin. Les porteurs lançaient des coups de pied dans les arbres et leurs lourdes chaussures marquaient sur l'écorce spongieuse de profondes meurtrissures bleuâtres. Le cimetière était juste au milieu de l'île. En grimpant sur les pierres, on pouvait, par-delà le sommet des arbres malingres, entrevoir, loin, vers l'autre rive, le ciel croisé de noir et marqué par le vol pesant des alérions sur les champs de morgeline et d'aneth. Les porteurs s'arrêtèrent près d'un grand trou. Ils se mirent à balancer le cercueil de Chloé en chantant « à la salade » et ils appuyèrent sur le déclic. Le couvercle s'ouvrit et quelque chose tomba dans le trou avec un grand craquement. Le second porteur s'écroula, à moitié étranglé, parce que la courroie ne s'était pas détachée assez vite de son cou. Colin et Nicolas arrivèrent en courant, Isis trébuchait derrière. Alors le bedon et le chouiche en vieille salopette pleine d'huile sortirent tout à coup de derrière un tumulus et se mirent à hurler comme des loups en jetant de la terre et des pierres dans la fosse. Colin était affaissé à genoux. Il avait la tête dans ses mains. Les pierres faisaient un bruit mat en tombant, le chuiche, le bedon, et les deux porteurs se donnèrent la main, ils firent une ronde autour du trou, et puis soudain, ils filèrent vers le sentier et disparurent en farandole. Le bedon soufflait dans un gros cromorne, et les sons rauques vibraient dans l'air mort. La terre s'éboulait peu à peu. Et au bout de 2 ou 3 minutes, le corps de Chloé avait complètement disparu. La souris grise à moustache noire fit un dernier effort et réussit à passer. Derrière elle, d'un coup, le plafond rejoignit le plancher et de longs vermicules de matière inerte jaillirent en se tordant lentement par les interstices de la suture. Elle déboula en toute hâte à travers le couloir obscur de l'entrée dont les murs se rapprochaient l'un de l'autre en flageolant et parvint à filer sous la porte. Elle atteignit l'escalier, le descendit. Sur le trottoir, elle s'arrêta. Elle hésita un instant, s'orienta et se mit en route dans la direction du cimetière.
« Vraiment ? » dit le chat. « Ça ne m'intéresse pas énormément. »
« Tu as tort, » dit la souris. « Je suis encore jeune. Et jusqu'au dernier moment, j'étais bien nourri. »«
Mais je suis bien nourri aussi, » dit le chat, « et je n'ai pas du tout envie de me suicider. Alors tu vois pourquoi je trouve ça normal. »
« C'est que tu ne l'as pas vu, » dit la souris.
« Qu'est-ce qu'il a fait ? » demanda le chat.
Il n'avait pas très envie de savoir. Il faisait chaud et ses poils étaient tous bien élastiques. « Il est au bord de l'eau, » dit la souris. « Il attend. Et quand c'est l'heure, il va sur la planche et il s'arrête au milieu. Il voit quelque chose. »
« Il ne peut pas voir grand-chose, » dit le chat. « Un nénuphar, peut-être. »«
Oui, » dit la souris. « Il attend qu'il remonte pour le tuer.
Bah, »« C'est idiot, » dit le chat. « Ça ne présente aucun intérêt. »
Quand l'heure est passée, continua la souris, il revient sur le bord et il regarde la photo.
« Il ne mange jamais ?»
demanda le chat. « Non ?» dit la souris. Et il devient très faible. Et je ne peux pas supporter ça. Un de ces jours, il va faire un faux pas en allant sur cette grande planche.
« Bah, qu'est-ce que ça peut te faire ?» demanda le chat. « Il est malheureux, alors ?»«
Il n'est pas malheureux, » dit la souris. « Il a de la peine. C'est ça que je ne peux pas supporter. Et puis, il va tomber dans l'eau, il se penche trop. »
« Alors, dit le chat, si c'est comme ça, je veux bien te rendre ce service. Mais je ne sais pas pourquoi je dis si c'est comme ça, parce que je ne comprends pas du tout. »«
Tu es bien bon, » dit la souris. « Mets ta tête dans ma gueule, » dit le chat, « et attends. »« Ça peut durer longtemps ?» demanda la souris.
« Le temps que quelqu'un me marche sur la queue, » dit le chat, « il me faut un réflexe rapide. » « Mais je la laisserai dépasser, n'aie pas peur. »
La souris écarta les mâchoires du chat et fourra sa tête entre les dents aiguës. Elle la retira presque aussitôt.
« Dis donc, » dit-elle, « tu as mangé du requin ce matin. »« Écoute, » dit le chat, « si ça ne te plaît pas, tu peux t'en aller. Moi, ce truc-là, ça m'assomme. Tu te débrouilleras toute seule. »
Il paraissait fâché.
« Oh, ne te vexe pas. » dit la souris.
Elle ferma ses petits yeux noirs et replaça sa tête en position. Le chat laissa reposer avec précaution ses canines acérées sur le cou doux et gris. Les moustaches noires de la souris se mêlaient aux siennes. Il déroula sa queue touffue et la laissa traîner sur le trottoir. Il venait en chantant 11 petites filles aveugles de l'orphelinat de Jules l'Apostolique. Voilà, nous avons terminé la lecture de L'écume des jours de Boris Vian et nous nous retrouverons demain pour d'autres lectures en liberté. Bonsoir.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.